Bonsoir à tous. Valérie Pécresse, première femme, candidate de la droite à une élection présidentielle. Avec plus de 60% des voix, la présidente de la région Île-de-France a été choisie par les électeurs LR. Valérie Pécresse, en campagne présidentielle, à la tête d'une droite unie.
Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle, mes chers amis. La droite républicaine est de retour. La droite des convictions, la droite des solutions. Et elle part au combat avec une volonté implacable.
La cérémonie d'intronisation de Valérie Pécresse. Dans un instant, dans ce journal également, des milliers de soignants ont manifesté à Paris pour réclamer un plan d'urgence pour l'hôpital. Protocole sanitaire renforcé au ski. Le pass sanitaire devient obligatoire à partir d'aujourd'hui. Fin de la visite d'Emmanuel Macron dans le Golfe. Le chef de l'État annonce avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman une initiative pour aider le Liban. Et puis en fin de journal, ma vie connectée, Christine Siméon et la révolution breakdance, le temps pour demain, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées en vigilance orange aux avalanches. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
Valérie Pécresse sera donc la candidate du parti Les Républicains. Elle est aussi, et c'est historique, la première femme investie par la droite pour une élection présidentielle. Valérie Pécresse remporte près de 61% des votes contre 39% pour Éric Ciotti. Bonsoir Anne Souhaitement.
Bonsoir Frédéric.
La droite, ça y est donc en ordre de bataille avec sa candidate et la campagne change de dimension.
Oui, et vous l'entendez, hein, c'était l'affluence des grands jours au siège du parti cet après-midi. 200 journaliste accrédité de la presse étrangère pour savoir qui d'Éric Ciotti ou Valérie Pécresse allait devenir le candidat. Le verdict est tombé à 14h30, la favorite l'emporte. En quelques minutes, Valérie Pécresse cesse de parler aux militants LR qui viennent de l'élire pour s'adresser aux Français et à ses adversaires.
Je le dis aussi à tous les Français lassés des paroles sans lendemain et tentées par Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Nul besoin d'être extrémiste pour être offensif. Les marchands de peur ne sont jamais efficaces dans l'action.
Voilà, fini la campagne interne, hein. Le temps est à la campagne tout court. Valérie Pécresse prononce d'ailleurs son premier discours entouré par ses adversaires d'hier, Ciotti, Barnier, Bertrand, Juvin. La droite aura montré une image, on ne peut plus fair play lors de cette primaire qui n'en avait pas le nom. Une droite rassemblée pour partir à l'assaut de l'Élysée. Un défi de taille, Frédéric, tant la droite est à la traîne dans les enquêtes d'opinion, en tout cas pour l'instant.
Valérie Pécresse, candidate LR, c'est aussi, Anne, un tournant dans l'histoire de la droite avec une femme candidate à la présidentielle.
Oui, d'ailleurs, l'image était assez étonnante, voire détonnante. Une Valérie Pécresse au centre de cette estrade avec sa veste rouge, entourée par des hommes en costume sombre. Clairement, la droite passe aujourd'hui un cap symbolique et la candidate l'a souligné immédiatement.
Pour la première fois de son histoire, le parti du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, notre famille politique, va se doter d'une candidate à l'élection présidentielle.
Alors, en fera-t-elle un argument de campagne ? Réponse lundi, premier déplacement prévu sur les terres d'Éric Ciotti.
Merci Anne, et on a entendu dans votre reportage, Anne Souhaitement, Valérie Pécresse mettre en garde les électeurs tentés par Éric Zemmour ou Marine Le Pen et les marchands de peur. La réponse de Marine Le Pen en déplacement en Pologne à Varsovie a été très rapide. La candidate du Rassemblement National estime que Valérie Pécresse est la plus macroniste de tous les candidats LR et Marine Le Pen cherche aussi à séduire les électeurs qui ont voté pour Éric Ciotti.
Valérie Pécresse est peut-être la plus macroniste de toutes les candidates qui étaient présente dans cette compétition interne à LR, celle qui a en même temps quasiment exactement le même profil qu'Emmanuel Macron et très certainement sur un nombre considérable de sujets, exactement les mêmes positions. Elle avait d'ailleurs été une de celles qui avait appelé à 20h02 lors de la dernière présidentielle à voter pour Emmanuel Macron. Donc c'est triste pour les électeurs LR parce qu'ils ont exprimé au travers de cette compétition leur souhait justement de sortir de ce côté Macron compatible. Ils ont toujours la possibilité, bien entendu, de venir participer à ma campagne où ils trouveront une défense assumée, décomplexée de la nation, de la souveraineté, de l'identité, des frontières et donc de notre destin commun.
Marine Le Pen avec Élodie Fauré. Et ce soir également, dans une lettre au militant LR, Éric Zemmour appelle les partisans d'Éric Ciotti à se rallier à sa candidature. « Je vous attends demain », écrit Éric Zemmour, qui tient demain son premier meeting de campagne à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. La campagne présidentielle et Valérie Pécresse, candidate du parti Les Républicains. Un dossier complet à retrouver sur franceinter.fr. Et il y a un sujet en particulier, peut-être le plus urgent du moment et qui est pourtant très peu évoqué durant cette campagne présidentielle, au moment où la cinquième vague de l'épidémie du coronavirus met sous pression un système hospitalier fragilisé, les candidats tardent à s'emparer de la question de la crise dans l'hôpital public. Alors les soignants sont de retour dans la rue, ils réclament un plan d'urgence pour l'hôpital. Plusieurs collectifs et syndicats de professionnels hospitaliers et libéraux ont appelé à la grève aujourd'hui dans toute la France. Les soignants qui se disent à bout veulent alerté sur l'état du système de santé, manque de personnel, lits fermés, démissions en cascade. Et ils se sont donné rendez-vous donc devant le ministère des Solidarités et de la Santé à Paris. Reportage Anne Lordanier.
Ils viennent de toute la France et partout le constat est le même. L'hôpital public est à l'os. Manque de personnel, manque de moyens, ça devient dramatique. Écoutez ce cri du cœur de Christelle. Elle est infirmière anesthésiste à l'hôpital de Bailleul dans la Sarthe.
Aujourd'hui, en France, il y a des morts. Il y a des morts parce qu'il n'y a plus de SMUR. Moi, je suis dans un endroit où il n'y a plus de SMUR depuis 2 ans la nuit. C'est à pleurer. Moi, j'entends que les responsables, et les responsables, ce sont les directions hospitalières, les directions d'ARS, qu'elles prennent leurs responsabilités de dire devant nous pourquoi les lits sont fermés, pourquoi les urgences ferment, pourquoi les SMUR ferment. Ce sont des criminels.
Des services d'urgence qui ferment, des lits en moins. Mathieu y est confronté tous les jours. Il est médecin à l'hôpital Béclair de Clamart.
Nous manque du personnel soignant, avec une politique de restriction budgétaire majeure qui fait qu'on cherche des intérims la veille pour le lendemain, après avoir harcelé le personnel qui est épuisé. On a 20% de lits fermés. Il y a 25 patients couloirs tous les jours aux urgences de Béclair.
Ces soignants en veulent aux gouvernements successifs qui n'ont rien fait, d'après eux, pour remettre sur pied l'hôpital public.
Anne-Laure Danier, l'inquiétude dans le monde face au nouveau variant Omicron du coronavirus, les fêtes du Nouvel An annulées à Rio de Janeiro, au Brésil, le Maroc interdit tous les festivals et manifestations culturelles et en France, le trafic aérien avec l'Afrique australe a repris sous très haute surveillance et les voyageurs en provenance de l'un des 10 pays classés en zone écarlate sont soumis depuis aujourd'hui à un isolement imposé de 10 jours, quel que soit le résultat de leur test de dépistage. Et depuis aujourd'hui également, le pass sanitaire est désormais obligatoire dans les stations de ski. Le protocole d'accès aux remontées mécaniques prévoyait un pass sanitaire en cas de taux d'incidence nationale dépassant les 200 cas pour 100 000 habitants. La limite a été franchie. On est à 350 cas aujourd'hui. Exemple, dans la station familiale du Semoz en Haute-Savoie, à l'achat du forfait et en bas des remontées mécaniques, dans la queue et les télécabines, où tout le monde est censé mettre le masque. Reportage, Colline Mollard, France Bleu Pays de Savoie.
Messieurs, dames, bonjour.
À la caisse, Océane le demande systématiquement.
Le forfait 2 heures, pas de souci. Je vais juste vous demander vos passes sanitaires, s'il vous plaît.
On n'a pas le droit de leur refuser la vente. On leur stipule bien que le pass est obligatoire dans les remontées mécaniques, qu'il se peut qu'il soit contrôlé.
Et justement, c'est Maxime qui se charge des contrôles aléatoires en bas des 2 téléskis ouverts.
Contrôle de station, c'est pour vérifier les passes sanitaires, s'il vous plaît.
Vous utilisez le même pour scanner les forfaits et les passes.
Passes sanitaires.
Qu'est-ce qui se passe alors si une personne n'a pas son pass?
On leur dit qu'il leur faut leur passe obligatoire.
D'accord, donc ouais, vous leur dites de partir.
Voilà.
Mais montrer son QR code sous la neige, c'est pas toujours pratique.
Comment ? Bah avec les gants, trouver le téléphone au fond du sac, au fond de la poche.
Quand t'as la version papier, il fait pas beau, bah là la version papier, je lui donne pas de remontée mécanique avant qu'elle soit lisible.
À ça, on ajoute le masque pour faire la queue.
J'ai enlevé les lunettes, mis les lentilles exprès pour, parce que sinon après c'est ingérable.
Même pour ce qui est final, ça tient plutôt chaud.
Avec plus ou moins de bonne volonté.
De toute manière, on a un masque pour nous protéger du froid.
C'est un masque, ça ?
Bah, en dessous, il y a un masque. En dessous, on a le masque.
On met le cache-cou et pour l'instant, on nous a rien dit.
On est dehors, en plein air, je vois pas pourquoi on devrait porter un masque.
J'ai pas mon masque, mais la prochaine fois, j'ai compris le message.
En tout cas, pour le directeur de la station, mieux vaut ce protocole qu'une fermeture des remontées mécaniques.
Et on apprend ce soir que la vaccination des enfants sera au menu du Conseil de défense sanitaire après-demain, lundi. Il n'y aura donc pas que des restrictions sur la table du prochain Conseil de défense. Un point concerne la possible vaccination prioritaire des enfants de 5 à 11 ans. Au dernier jour de sa visite dans le Golfe, Emmanuel Macron s'est rendu aujourd'hui à Jeddah en Arabie Saoudite, et après sa rencontre avec le prince héritier Mohamed Ben Salman, le chef de l'État a annoncé une initiative commune de la France et de l'Arabie Saoudite en faveur du Liban pour permettre au pays de sortir de la crise. Sur place à Jeddah, Christian Chesneau.
Pour sa dernière étape à Jeddah, sur les bords de la mer Rouge, Emmanuel Macron s'est livré à un pur exercice de réel politique. Il est l'un des premiers leaders occidentaux à rencontrer le fougueux et controversé prince héritier Mohamed Ben Salman, dit MBS. Les droits de l'homme ont été évoqués, même si Emmanuel Macron a bien pris soin de ne pas mentionner dans sa conférence de presse finale le nom de Jamal Khashoggi, le journaliste assassiné en 2018 par les services saoudiens.
Nous avons parlé de tout absolument sans aucun tabou avec Mohamed Ben Salman. Et nous avons pu évoquer évidemment la question des droits de l'homme, évidemment la sensibilité de la communauté internationale, les réactions suite à ce qui avait pu se passer aux situations particulières que nous connaissons et que nous suivons. Et donc ça a été un échange direct, je l'espère efficace. Et comme vous le savez, j'ai toujours la même approche qui consiste à essayer de préserver ce canal avec les dirigeants pour obtenir des résultats tangibles.
Emmanuel Macron et MBS ont passé en revue les dossiers régionaux et en particulier la crise libanaise. Le président français et le prince héritier ont téléphoné au Premier ministre Najib Mikati pour lui signifier une forme de réengagement de l'Arabie au pays du cèdre. Riyad semblait se désintéresser de ce dossier, ce qui fait dire à Emmanuel Macron que sa visite dans le royaume aura été utile. Jeddah, Eric Audra, Christian Chesneau, France Inter.
Un mot du Téléthon avec des promesses de dons à 18h qui s'élèvent à près de 33 millions d'euros pour faire une promesse de don. Il vous faut composer le 3637 ou par internet don.téléthon.fr. Notre rendez-vous du samedi 19h avec Christine Siméon et Ma Vie Connectée. Bonsoir Christine.
Bonsoir Frédéric.
Et vous allez nous parler ce soir de la vague breaking. Les premiers championnats du monde officiels de breaking sont organisés ce soir à Paris, au Théâtre du Châtelet, suivi dimanche d'un open de breaking. Êtes-vous incollable sur le breaking? Si vous avez des lacunes, vous pouvez vous rattraper en suivant un MOOC conçu par le Centre chorégraphique national de Créteil et Paul Hansen à Bron, Christine.
Et oui, mais écoutez ça, souvenez-vous de Sydney et de son émission HIP HOP, c'était en 1984. Avec le MOOC que je vous conseille de suivre aujourd'hui, vous saurez tout sur le hip-hop et la breakdance. Par exemple, vous saurez ce qu'est une coupole, ce qu'est le crump, le locking ou le smurf.
Et aujourd'hui, Christine, le hip-hop est donc partout et il entre dans la grammaire des chorégraphes contemporains.
3 des 19 responsables de centres chorégraphiques nationaux sont issus de la culture hip-hop. Par exemple, Mourad Merzouki, ancien fan de Sydney, est aujourd'hui directeur du Centre chorégraphique national de Créteil. Il est avec Sydney, le maître de cérémonie de ce cours en ligne.
Parler de cette culture avec Sydney, avec ce qu'il incarne, avec tout ce qu'il a vécu depuis, eh ben c'est précieux pour tous ceux qui ne l'ont pas connu. Sydney, ça permet de partager avec ceux qui ne connaissent pas le hip-hop.
Ouais. Tu lui passes tes vibrations d'une douce ondulation du bras.
Et aujourd'hui, le hip-hop intéresse beaucoup, beaucoup de monde. Un public de toute génération, des jeunes, des moins jeunes, des familles. Et ça, pour moi, c'est évidemment important et précieux de voir que c'est une danse qui rassemble et une danse qui s'adresse véritablement à tous.
Maintenant, à son tour, recevant ta pulsation, il va se mettre à faire ce qui lui passe.
En suivant ce cours en ligne, vous ferez aussi connaissance, par exemple, avec la danseuse et chorégraphe Caroline Besson-Diatta, alias Lindiva. Danseuse classique à la base, elle danse le hip-hop depuis 2006. Ou bien vous ferez connaissance avec Yann Abidi, le cofondateur des Pokémon Crew, équipe que l'on a si souvent vue dans les festivals de danse.
Ma Vie Connectée, Christine Siméon, a retrouvé sur franceinter.fr avec un quiz breakdance. Un mot de football et la Ligue 1, 17e journée. Marseille s'est fait surprendre par Brest à domicile. Brest a gagné 2-1.